On s'intéresse à deux rapports de la CTC étudiés par l'Assemblée. On parle aussi de fiscalité aérienne et puis on ira au tribunal administratif. Mais avant tout ça, on revient sur la nouvelle performance de la surfeuse Vainé Fierro. Et le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous.
À la une ce midi, du surf et un moment très attendu pour Vainé Fierro.
Cela faisait 5 ans que la Polynésienne attendait ça. 24 ans, Vainé Fierro s'est qualifiée pour le Championship Tour de la WSL, l'élite du surf mondial. Elle a décroché la 5e et dernière place qualificative ce matin au Brésil sur la dernière étape de la saison du circuit des Challenger Series, la 2e division. Une compétition dont elle a pris la 2e place finale après avoir éliminé notamment Sofia Medina en quart puis Yolanda Hopkins en demi-finale. Elle s'est finalement inclinée au dernier tour contre l'Australienne Macy Callaghan, mais pas de quoi lui enlever le sourire. Elle qui réalise un rêve, dit-elle, en se qualifiant donc pour ce CT. Vainé Fierro est la première Polynésienne à se qualifier. C'est la 7e française seulement. Seule 18 surfeuses y participent chaque année. On la retrouvera donc à partir de janvier pour la première étape sur le mythique spot de Pipeline, Hawaï, où elle retrouvera notamment la française Joanne Defay, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Tairupo.
Bravo, bravo. Et c'est donc une année exceptionnelle pour le surf polynésien.
Oui, avant cette qualification, Vainé Fierro avait déjà gagné la Tahiti Pro. Souvenez-vous, c'était en mai alors qu'elle était invitée sur la compétition. Il y a eu bien sûr la médaille d'or olympique de Kaoli Vast, remportée à domicile, ou encore les belles performances des jeunes Tia Zebrowski ou Kiara Gold sur les circuits de qualification. Bref, on en redemande. Voilà ce que nous confie le président de la Fédération Tahitienne de Surf, Mac Vasna, qui a organisé une conférence de presse ce matin pour célébrer la qualification de Vainé Fierro. Un accomplissement qui a un goût de revanche. On écoute le dirigeant du surf local.
Vainé, surtout, elle a été très, très touchée. Elle était vraiment triste de ne pas plus avoir de médaille au JO. Et j'avais dit, moi, personnellement, que c'était partie remise et surtout qu'elle se concentre et de se qualifier pour le WCT, parce que comme ça, quand elle revient à Tairupo, c'est plus en invité dans Wildcard, ce sera en tant que compétitrice professionnelle. Et maintenant, le plus dur est passé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de continuer dans cette voie-là et de rester qualifié pour le CT.
Voilà, l'an prochain, Vainé Fierro devrait donc revenir en tant que compétitrice du CT sur la Tahiti Pro. C'est prévu du 7 au 16 août, à condition pour ça d'avoir performé avant et d'avoir passé le fameux cut demi-saison qui relègue après 7 étapes les 8 moins bonnes surfeuses en 2e division. Bon, si tout se passe bien, on pourrait donc retrouver deux Polynésiennes sur la prochaine Tahiti Pro, puisque Mac Vasna a la ferme intention de conserver l'invitation réservée à une locale. Elle était attribuée chaque année à Vainé Fierro, mais elle pourrait donc être remise en jeu, et pourquoi pas à l'occasion de trials, comme cela se fait déjà chez les garçons.
Attends, juste qu'il y a des candidatures quand même de Tahitiens qui puissent faire le trial de Tairupo. Donc on va essayer de le faire. En tout cas, pour les hommes, c'est sûr. Pour les femmes, on aimerait bien le faire. On a des candidates, mais non, il faut un minimum de compétitrices pour pouvoir faire une compétition pour elles. Mais sinon, on a plein de prétendantes qui peuvent soit faire l'événement, soit se qualifier directement par une wildcard qu'on pourrait lui attribuer à une d'entre elles.
Voilà, selon le président de la fédération, les négociations se poursuivent pour conserver ces deux invitations réservées aux locaux sur la Tahiti Pro. Mais dit-il, on y pensera un peu plus tard, l'heure aujourd'hui est à la célébration.
On reste dans le sport, Valdemar, avec le lancement du compte à rebours pour les Jeux du Pacifique.
J-1000 jours, ce sera à Mahina le dimanche 27 octobre. Le maire de la commune, Damas Tewira, et le directeur général du comité organisateur des Jeux du Pacifique, Steve Raoult, ont signé hier la convention de partenariat. Les festivités débuteront dès 13h avec notamment des activités sportives, football, beach volley, lutte, basketball ou encore force athlétique. Tout ça sera à l'honneur. Il y aura ensuite une cérémonie qui commencera à 15h30 avec une arrivée de pirogue sur la pointe avant une bénédiction traditionnelle et la révélation du logo des Jeux de 2027. Et ça se terminera avec un tamboulé marathon et un spectacle de danse en soirée. Écoutez Steve Raoult.
Dans la proclamation que nous avons déjà actée depuis plus de 2 ans, on souhaite mener au moins 2 actions par an de ce type-là pour construire un peu cet engouement et puis surtout avoir de la proximité. Sans le public, on sait que les Jeux ne sont pas réussis. Et notre ambition, c'est aussi celle-là, c'est de faire en sorte que la Polynésie soit fière d'accueillir les Jeux avec sa population parce que c'est sa première ressource.
Voilà, rendez-vous donc à la Pointe Vénus dimanche 27 octobre pour une grande fête sportive et traditionnelle.
La politique de lutte contre le cancer critiquée par la CTC.
La Chambre territoriale des comptes a réalisé une évaluation de l'action publique contre le cancer sur les 5 dernières années. Le cancer est la deuxième hausse de décès en Polynésie depuis 25 ans et 800 à nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Les taux d'incidence sont globalement inférieurs à ceux de la métropole, hormis pour les cancers gynécologiques et les cancers féminins de la thyroïde. Et on dépiste plus tôt en Polynésie, mais il y a un mais, la proportion d'adultes en surpoids, 48% de la population est en situation d'obésité. C'est un facteur aggravant qui pèse sur la fréquence des cancers. Enfin, ces cancers représentent 30% des dépenses de longue maladie, soit 12,5 milliards par an. Et le dernier plan cancer du pays portait sur la période 2018-2022, Caroline Perdry.
Oui, et il n'a pas été évalué, il n'a d'ailleurs même pas été renouvelé. C'est donc la première recommandation de la Chambre territoriale des comptes, établir un nouveau plan cancer dès 2025. Toutes les autres recommandations invite aussi le pays à l'action dès l'année prochaine, mettre réellement en œuvre le partage des données entre la CPS et l'ICPF, qui est chargée de tenir le registre du cancer, améliorer le dépistage et envisager celui du cancer colorectal à partir de 50 ans, faire une étude sur les inégalités dans la prise en charge et la vie après le cancer, et puis améliorer l'offre de soins par des coopérations renforcées entre l'hôpital et l'Institut du cancer, et prévoir l'extension de l'offre de soins dans les archipels.
Demain à l'Assemblée, les élus seront donc invité à approuver les comptes de l'Institut du cancer. Il est à peu près certain qu'on entendra parler de l'offre de soins. Être dépisté mais ne pas pouvoir être soigné au Fénois reste un problème majeur, car malgré les interventions lénifiantes des responsables de la santé, le manque d'oncologues au CHPF est toujours un problème.
Et l'autre rapport qui sera étudié demain par l'Assemblée, c'est un rapport sur la politique jeunesse.
Et c'est aussi un rapport de la CTC. Les magistrats ont là aussi fait le point sur 5 années de politique publique en faveur des 15-25 ans. 40 000 jeunes environ qui sont très souvent mis au devant des discours politiques. Les élus font régulièrement des annonces sur la façon dont ils veulent accompagner, former, orienter ou redresser cette jeunesse. Des études sont lancées, des rapports, des dispositifs très divers ont été mis en place au fil des années. Mais ce que constatent les magistrats, c'est que là aussi, l'action des autorités manque de cap, Charlie René.
Oui, et ça n'était pas très difficile à établir. Le pays n'a à ce jour aucun schéma directeur de la jeunesse. Édouard Fritsch et son équipe en avaient beaucoup parlé sous l'ancienne mandature. Des travaux avaient été menés, mais rien n'a jamais été voté à l'Assemblée. En 2023, Naïma Temari a relancé la construction de cette feuille de route. Le président du pays, lui, promet à la Chambre un observatoire de la jeunesse polynésienne pour pallier au manque de données régulièrement mises à jour dans le secteur. Alors la CTC salue bien sûr ces projets, mais prévient, cette fois, il faut aboutir et il faut aboutir rapidement. Et ce ne sont pas les seuls chantiers à lancer. La Chambre note qu'en matière de jeunesse, le pays distribue les subventions aux associations sans réellement mesurer leur efficacité. Il faut aussi uniformiser l'accès de la jeunesse à l'information sur les programmes d'accompagnement. Et puis surtout, les magistrats expliquent que la politique jeunesse doit être interministérielle. Naïma Temari devra mieux coordonner son action avec les ministres de l'Éducation, du Travail ou de la Santé, Valdemar.
Et si la Chambre territoriale des comptes est très impatiente de voir cette politique jeunesse être réorganisée, c'est que les constats sur la situation des 15-25 ans sont inquiétants, Charlie.
Oui, une partie de la jeunesse polynésienne est en grande difficulté. C'est ce qui ressort de ce rapport et des différentes études menées sur le sujet ces dernières années. On parle bien sûr de décrochage scolaire, de chômage qui a sensiblement augmenté chez les jeunes pour atteindre 12% de la classe d'âge. On parle de problèmes familiaux aussi, de perte de repères, de souffrance avec les lignes dédiées au suicide qui parlent de plus en plus à des 15-25 ans. Les chiffres de la délinquance, eux, ne montrent pas d'explosion, mais les mineurs, ce sont beaucoup d'atteintes aux biens, vous savez, mais tout de même des condamnations pour violentes qui sont en hausse. Et puis il y a bien sûr le problème des addictions. La tendance est mauvaise sur la consommation de paca ou d'alcool. Les expérimentations d'ail se font de plus en plus tôt. Face à ces phénomènes, des prises en charge ponctuelles sont bien réalisées, souvent sur signalement scolaire, comme le relève le rapport, mais aucune structure hospitalière n'est dédiée au sevrage en Polynésie. Le pôle de santé mentale est là encore attendu de pied ferme, Valdemar.
Voilà un rapport de la CTC sur la politique jeunesse qui sera donc étudié demain à l'Assemblée et dont vous pourrez retrouver les conclusions essentielles sur notre site radio1.pf dans la journée.
Et au niveau national, c'est la fiscalité aérienne qui fait débat.
Et ça n'est pas la première fois. Depuis plusieurs années, les élus parisiens caressent l'idée de faire grimper la TBSA, cette taxe de solidarité ponctionnée sur tous les vols au départ ou à l'arrivée de la métropole. Une taxe Chirac, comme on l'appelle dans le secteur, qui rapporte aujourd'hui 500 millions d'euros par an à l'État. Eh bien, le gouvernement de Michel Barnier veut en tirer 1 milliard d'euros de plus au nom de l'écologie et bien sûr, mais surtout au vu des besoins budgétaires. Alors forcément, ce triplement du rendement va avoir de lourdes conséquences sur le prix des billets d'avion internationaux. Certaines compagnies parlaient de 60 à 200 euros de plus sur des vols d'une dizaine d'heures. heures. De quoi beaucoup inquiéter les voyageurs ultramarins, comme l'a relevé le Sénat hier. Une élue antillaise l'a évoqué lors d'une séance au Sénat, justement. Et le ministre de l'Économie, Antoine Armand, a promis en réponse que la hausse de taxes serait calibrée pour ne pas impacter les compatriotes qui se rendent de leur pays à leur pays. Fin de citation. On imagine tout de même que ATN, French Bee ou Air France vont être très attentifs au débat budgétaire de ces prochaines semaines.
Vodafone était devant le tribunal hier.
L'opérateur de téléphonie attaquait un arrêté du pays relatif à l'octroi de son agrément d'opérateur de téléphonie mobile au tribunal administratif. Le cahier des charges lui impose le déploiement de ses propres antennes 4G dans les îles éloignées, mais Vodafone veut privilégier le recours à l'itinérance. Le rapporteur public a conclu à l'annulation partielle de l'article visé, voyant là une erreur manifeste d'appréciation du pays. Décision attendue le 12 novembre.
Au tribunal administratif toujours, un conflit foncier entre l'armée et le pays.
Le ministère des Armées souhaitait construire 12 nouveaux logements à Pirée, mais le terrain désiré à Taoné, non loin des locaux actuels de la Légion étrangère, est une emprise réservée par la commune qui souhaite en faire un espace vert. Le pays avait donc refusé le permis de construire, ce qu'attaque l'armée qui assure que le terrain fait partie du domaine public militaire. Une question que devra trancher le tribunal. Hier à l'audience, le rapporteur public a estimé que le terrain n'a jamais été retiré du domaine public, n'ayant pas fait l'objet de déclassement par l'autorité compétente, en l'occurrence le ministère des Armées, là aussi délibéré. Et attendu pour le 12 novembre.
En mer, une fausse alerte hier a mobilisé les secours.
Oui, le JRCC Tahiti a reçu en fin d'après-midi un signalement faisant état de la présence d'une personne inerte en mer à 1 km de la côte, aux alentours de l'embouchure de la Papeno. Il s'agissait d'un kitesurfer, selon Polynésie la Première. Le dispositif de secours mis en place, un semi-rigide des pompiers et l'hélicoptère Dauphin ont alors quadrillé la zone, mais il s'agissait d'une fausse alerte, d'après le Haut-Saria, qui n'a trouvé que de nombreux débris végétaux flottant à la surface et plusieurs baleines dans la zone.
Et on termine en music avec un super groupe.
Il s'agit de Magic Castle qui a été choisi pour jouer en première partie de The Dire Straits Experience le 26 octobre à Toata. La formation est toute neuve, elle rassemble quelques-uns des musiciens les plus demandés et les plus talentueux du Fénois. On y retrouve le guitariste des Whiteseed, Tuhiva Morgan, le bassiste très groovy, Fariki May, Bruno Demougeot au clavier, on ne le présente plus, pas plus que Reaipo.